Partie 2, histoire. Plusieurs inventeurs comme Louis le Prince, Edward James Muybridge, Auguste et Louis Lumière, Étienne Jules Marais ou Thomas Edison inventèrent des procédés d'enregistrement d'images. Les historiens datent la naissance du cinéma à la première projection cinématographique publique et payante, que l'on a longtemps cru être celle du 28 décembre 1895 par les frères Lumière. Cependant, il fut établi que les frères Skladanowski organisèrent une projection similaire quelques semaines auparavant, mais cet événement n'eut pas la portée historique de celle des frères Lumière. Un journaliste qui contestait la paternité du cinéma à Louis Lumière, l'historien du cinéma Georges Sadoul, répondit « Si, il a inventé le cinéma, avec une cinquantaine d'autres. » La première projection cinématographique publique et payante Lumière eut lieu le 28 décembre 1895, au salon indien dans les sous-sols du Grand Café à Paris. Le billet coûtait 1 franc et donnait droit à une dizaine de films d'une minute chacun environ, dont la sortie de l'usine Lumière à Lyon. Ce qui fut présenté longtemps comme le premier film fut tourné au mois d'août 1894, au rez-de-chaussée d'un bâtiment de la rue Saint-Victor qui porte de nos jours le nom de rue du premier film. Il y eut plusieurs versions de la sortie de l'usine Lumière à Lyon. La plus connue, tournée durant l'été 1895, montre les ouvriers, et principalement les ouvrières, sortir de l'usine en tenue du dimanche. Depuis, on a retrouvé une version antérieure, dans laquelle les ouvrières sortent en blouse, au naturel, et qui constituait un essai non préalable au tournage de ce premier film. Dès lors, ce qui fut longtemps présenté comme un documentaire était en réalité une fiction. Mais le film qui marqua vraiment les esprits fut l'arrivée du train en gare de La Ciotat, tourné en 1895 et présenté en janvier 1896. La rumeur populaire veut que quelques personnes effrayées eussent alors un mouvement de recul, pensant que le train arrivait réellement vers eux. C'est le début du cinéma commercial et de l'industrie cinématographique. Le cinématographe devient rapidement un art populaire, exploité de front en salle et dans les fêtes foraines. Très vite, les frères Lumière envoient des opérateurs à travers le monde pour en rapporter des scènes de la vie de tous les jours. C'est le début du cinéma d'actualité. Première atteinte à la liberté de la presse, l'opérateur de Lumière, Félix Mesguich, est arrêté à New York en 1897 alors qu'il filmait une bataille de boules de neige. Dans le cadre de la guerre des brevets initiée par Edison, toute l'industrie cinématographique tombe sous le monopole du Trust Edison jusqu'en 1918. Cependant, l'inventeur messin Louis-Aimé Augustin Le Prince invente, construit et dépose le 11 janvier 1888 le brevet d'une caméra de projection cinématographique, ce qui en fait théoriquement l'inventeur du cinéma, bien que l'histoire du cinéma l'ait oublié. Précurseur des effets spéciaux, du cinéma de fiction, d'un cinéma théâtral et d'un cinéma poétique, Georges Méliès, illusionniste de formation, réalise les premières fictions dotées d'effets spéciaux en trompe-l'œil. Le Voyage de la Lune, 1902, en est un bel exemple. Dans les années 1910, le cinéaste américain David Work Griffiths a codifié les principes du langage cinématographique classique. Montage alterné, variation de point de vue, insertion de gros plans dans les scènes éloignées, champ contre champ, etc. Tant que le cinéma n'était que le moyen de reproduction de personnages en mouvement, il n'était pas plus un art que la phonographie ou la photographie de reproduction. Dans un espace, généralement une scène de théâtre véritable ou imaginaire, des acteurs évoluaient, représentaient une pièce ou une farce que l'appareil se bornait à enregistrer. La naissance du cinéma en tant que moyen d'expression, et non de reproduction, date de la destruction de cet espace circonscrit, de l'époque où le découpeur imagina la division de son récit en plans, envisagea, au lieu de photographier une pièce de théâtre, d'enregistrer une succession d'instants, d'approcher son appareil, donc de faire grandir le personnage dans l'écran quand c'était nécessaire, de le reculer, surtout de substituer au plateau d'un théâtre le champ, l'espace qui sera limité par l'écran, le champ où l'acteur entre, d'où il sort, et que le metteur en scène choisit au lieu d'en être prisonnier. Jusqu'à la fin des années 1920, aucune bande sonore n'accompagne l'image sur la pellicule, et c'est alors souvent un ou des musiciens présents dans les salles de projection qui accompagnent les films. On parle alors de cinéma muet pour les films narratifs, ou de cinéma visuel pour les films d'art, le cinéma pur. Les dialogues des films narratifs étant retranscrits par des cartons appelés intertitres. texte typographié inséré dans le film. Les films narratifs d'alors sont souvent accompagnés par un musicien, voire un orchestre complet, et sont projetés dans des salles immenses. Les salles actuelles sont en moyenne 2 à 4 fois plus petites qu'à l'époque. Le musicien avait parfois une partition précise à interpréter, ou s'inspirait librement, au besoin, sur des airs connus, d'opéras italiens par exemple. Les années 1920, avec les avant-gardes, sont les véritables débuts du futur cinéma expérimental, dont on peut dater la naissance par exemple avec le Manifeste de la cinématographie futuriste, 1916, et le dadaïsme. Des artistes s'emparent de ce médium naissant qu'est le cinéma, tels Fernand Léger, Man Ray, Germaine Dulac, Walter Ruttmann, Hans Richter, Viking Hegeling, etc., ainsi que des cinéastes René Clair, Henri Chaumette, Tsiga Vertov, Joris Ivens. De nombreuses tentatives ont été faites pour synchroniser le son et l'image, par exemple en calant le projecteur avec le sonographe. Le son a déterminé la cadence de projection autrefois aléatoire, 16, 18, 25 images par seconde selon le bras du caméraman qui tournait la manivelle, ce qui provoque une accélération du mouvement lorsqu'ils sont projetés à la vitesse standard actuelle de 24 images par seconde. À partir du chanteur de jazz en 1927, des sons, de la musique, puis des dialogues et des bruitages peuvent être enregistrés et reproduits lors de la projection. Avec la crise économique de 1929, le nombre de spectateurs diminue dans les salles. Les majors, grandes compagnies de production, de Hollywood décident de créer un double billet. Pour le prix d'une entrée, le spectateur peut voir 2 films. Un grand, la série A, et un petit. C'est le début des films de série B, dont les principaux objectifs sont d'être peu chers à produire, rapides à faire, pas trop longs, entre 50 et 70 minutes, et lucratifs. Un des nombreux films novateurs de l'époque fut un film de propagande nazie, Les Dieux du Stade, une présentation des Jeux Olympiques de Berlin en 1936, glorifiant le peuple allemand et la prétendue race aryenne. La réalisatrice, Leni Riefenstahl, met pour la première fois des caméras sur des grues et crée le style et les cadrages des films ou reportages sportifs. Le triomphe de la volonté en est un exemple notable. Les évolutions techniques majeures furent par la suite l'arrivée de la couleur et des formats larges dans les années 1950, afin de donner plus d'ampleur au spectacle pour concurrencer la télévision, des formats étroits, l'allègement du matériel qui permit l'avancée du cinéma expérimental, du cinéma documentaire et l'éclosion de la nouvelle vague en France, l'arrivée de la synthèse d'images informatiques dans les années 1990 et l'arrivée du son numérique dans la même période. L'après-guerre voit la naissance du cinéma moderne qui rompt avec le classicisme hollywoodien en ce qu'il privilégie le document, le monde tel qu'il est, dans toute son ambiguïté ou son opacité, et refuse de doter le réel d'un sens préétabli, déjà dramatique, immédiatement lisible. Néoréalisme italien des années 1945-53, avec le cinéaste Roberto Rossellini, Rome, ville ouverte, 1945, Roberto Rossellini avec Stromboli, 1947, Europe 51, 1951, et surtout Voyage en Italie, 1953, ouvrira la voie d'un cinéma où le monde n'a plus d'évidence, où le récit devient fragmentaire, hésitant, et où le spectateur devient le seul garant du sens. Dans les années 1960, la nouvelle vague française, François Truffaut, Jean-Luc Godard, italienne, Michelangelo Antonioni, Pier Paolo Pasolini, est-européenne, Milos Forman, Miklos Jankso, Andrei Tarkovsky, allemande, Rainer Werner Fassbinder, Wim Wenders, nord et sud-américaine, John Cassavetes, Glauber Rocha, amplifie ce mouvement qui se caractérise par une nouvelle esthétique, montage haché, elliptique, ou au contraire plan très long, mélange de fiction et de documentaire, et de nouveaux sujets, jeunesse, crise existentielle, revendication politique. Dans les années 1960 apparaît aussi le cinéma underground américain, intimement lié aux mouvements sociaux de l'époque. Ce cinéma se démarque de l'industrie professionnelle, entre autres par l'emploi de la pellicule 16 mm et la création de coopératives qui lui donnent une grande liberté et lui permet de contourner la censure. À partir de 1965, le Super 8 devient accessible au public. C'est la vraie naissance du cinéma amateur. Ce cinéma comprendra par la suite les films de série Z, car réalisés avec moins de moyens que les films de série B. Comme le Super 8, son infrastructure très légère et son coût moindre, la vidéo, d'abord très lourde et réservée à un usage professionnel, deviendra dans les années 1980 un médium privilégié, notamment pour les jeunes créateurs, permettant de faire, par exemple, des journaux intimes filmés. Voir par exemple le film de Jonas Mekas, Lionel Soukas, No Sex Last Night, de Sophie Calais, ou bien Demain et encore demain, journal 1995 de Dominique Cabrera. Il est à noter que les dénominations série B et série Z, bien que dénotant un manque de moyens, ne sont pas nécessairement péjoratives et sont parfois revendiquées comme une contre-culture par des cinéastes refusant d'entrer dans le moule des majors. Parmi les réalisateurs célèbres de série Z, on peut citer par exemple Ed Wood, Roger Corman, qui lança Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Joe Dante et Jack Nicholson, et Peter Jackson bien avant Le Seigneur des Anneaux. De même, le cinéma expérimental, encore plus en marge de l'industrie cinématographique, possède son histoire personnelle et parallèle. Dans la même lignée que le Super 8, le 16mm et la vidéo, l'arrivée du numérique ajoute un médium à la palette des pratiques légères possibles, développement supprimé, tirage en laboratoire facultatif, et rend plus facile la post-production d'effets spéciaux, par exemple l'attaque des clones de George Lucas, ou la souplesse dans le montage, voire l'auberge espagnole de Cédric Clapiche. Et bien sûr, la légèreté dans le tournage, les glaneurs et la glaneuse d'Agnès Varda, ou la vierge des tueurs de Barbet Schroeder.